RCF.
La beauté de la création est la face visible de l'invisible, elle ne cesse de s'offrir à nous. C'est la conviction de Marie-Noëlle Garrigou, une artiste installée depuis 40 ans au pied du massif du Vercors. Cette cinquantenaire enjouée, chrétienne orthodoxe, a pour passion de transmettre son goût de la couleur et du dessin à travers l'icône. Depuis quelques années, elle propose aussi des stages d'initiation à l'art de la mosaïque, en dialogue avec la création. Elle emmène ainsi ses élèves cueillir des pierres dans la nature avant de les accompagner dans l'élaboration d'une œuvre personnelle. Avec son mari Zarco, Marie-Noëlle Garrigou anime son atelier mosaïciel dans le petit village de Saint-Jean-en-Royans, à l'endroit même où ses parents avaient déposé leurs valises dans les années 70. Chez les Garrigou, l'art sacré est une histoire de famille, comme l'évoque Marie-Noëlle qui, du plus loin qu'elle se souvienne, a toujours baigné dans la vocation artistique de ses parents.
Je me suis rendu compte que souvent, quand je devais parler de moi, naturellement, je parlais de mes parents instantanément, on va dire, et notamment de ma mère aussi, de son histoire. Donc mes racines, elles sont franco-russes ou franco-ukrainiennes, puisque ma mère est née en Ukraine et mon père est français. Et ma racine iconographique, naturellement, je dirais, presque par le lait maternel, puisque ma mère étant iconographe, c'est comme ça qu'elle m'a transmis, avec mon père qui lui aussi a été initié à l'iconographie. Donc c'est une transmission et mes racines sont ancrées dans l'icône, principalement au départ en tout cas.
Votre mère Ludmila est ukrainienne. Elle a été baignée dans la culture chrétienne orthodoxe. Elle vous en a parlé?
Oui, tout à fait. Ben, disons qu'elle a des souvenirs lointains, qui sont en lien avec son enfance, puisque quand elle était petite, elle a été attaquée par un coq dans le village où elle était, parce qu'elle habitait dans une ferme, et avec ses parents et les grands-parents. Et puis elle a contracté la polio. Et juste auparavant, elle était très en lien avec un moine de son village qui a commencé à lui transmettre l'iconographie. Ensuite, avec ma grand-mère, elles ont été déportées à Auschwitz, prises dans une rafle. Et puis, par la suite, ce moine iconographe de son village, elle l'a retrouvé aussi dans les camps.
À Auschwitz.
Sachant que ma mère était enfant et handicapée et vivait cachée dans le camp. Enfin, c'était totalement miraculeux.
Elle vous en a parlé, là, des camps ?
Quand on était petit, on n'évoquait pas beaucoup cette période-là. Et puis ma mère et ma grand-mère ont longtemps voulu oublier. Ma mère en a même oublié sa langue natale, maternelle.
L'ukrainien.
L'ukrainien, alors qu'elle le parlait jusqu'à 18 ans. Mais du fait d'oublier un passé douloureux, et notamment les camps. Il n'y a que ces dernières années que vraiment elles ont pu en parler de plus en plus, avec de plus en plus d'intensité et de détails. Ma grand-mère, pareillement, qui est née au ciel il n'y a que 2 ans, elle est partie, elle avait 97 ans. Et les années passant, elle en parlait avec de plus en plus d'intensité. Justement, souvent on dit que voilà, plus on prend de l'âge et plus le passé ressurgit avec précision.
Elles avaient été séparées dans le camp à Auschwitz ou pas ?
Non, elles ont. Maman a vécu cachée dans le camp, donc elles étaient ensemble. Cachée parce que sinon elle était exterminée, hein. Donc c'est assez providentiel, parce que enfant et plus la polio, de toute manière, les enfants étaient exterminés.
Mais combien de temps a-t-elle vécu cachée ?
Je pourrais pas vous dire exactement. Elle a témoigné en fait, elle a fait un écrit. Depuis longtemps, plusieurs personnes lui avaient demandé de témoigner de son histoire par rapport à cette histoire des camps, mais avant tout aussi de l'iconographie, de toute sa vie qui a été faite de miracles, d'ombre aussi et de lumière, et constamment ce chemin de la résurrection avec des mises en croix, on va dire, mais un témoignage de lumière et de beauté, où la vie est plus forte que tout. Et pendant longtemps, elle a dit « mais je n'ai pas à écrire sur ma vie puisque j'écris déjà des icônes ». Donc pour elle, écrire des icônes, c'était vraiment participer à ce monde divin. Et puis, par la suite, un moine à Chypre lui a demandé, ne la connaissant pas, mais lui a dit, Ludmila, il est temps pour vous de témoigner. Et à partir de là, elle a commencé à écrire dans le secret de sa chambre un manuscrit. Au fur et à mesure des années, on savait qu'elle écrivait, mais elle nous en avait jamais exprimé, ou en tout cas lu des passages ou quoi que ce soit. C'était vraiment son cheminement personnel. Et puis on savait que ça remuait beaucoup de choses, parce que quand on retourne dans le passé, surtout un passé qu'on a voulu volontairement oublier ou enfouir, ça ressurgit, donc c'est pas sans douleur parfois non plus, mais toujours à la lumière de la résurrection. Et on a pu lire, mon père et moi, enfin mettre notre voix sur son manuscrit auprès d'elle, parce qu'elle est partie maintenant il y a 4 ans, je dirais prématurément, parce qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle parte aussi vite. Elle a eu la maladie de Charcot, qui l'a emmenée en quelques mois. Alors je sais qu'elle ne voulait pas être un poids pour nous, en vieillissant, avec son handicap de la polio, quoi que ce soit. Et elle disait, j'espère que le Seigneur va trouver une solution, je ne voudrais pas vieillir trop longtemps pour ne pas vous être un poids. Et ben, il faut être attentif aux demandes des fois que l'on fait. C'est vrai qu'elle est partie très rapidement, mais elle a pu, pareillement, miraculeusement, continuer d'écrire et de terminer son livre sur son lit d'hôpital, puisqu'il lui restait plus que la main droite valide. Elle a pu continuer d'écrire jusqu'au bout. Et quand elle a fini d'écrire son livre, on l'a imprimé, et tous les jours, quand on venait la voir, elle nous demandait, à mon père ou moi, de lire un chapitre. Et là, mais c'était d'une intensité de mettre notre voix sur ces mots et de découvrir la profondeur et toute l'histoire de sa vie. Et ce manuscrit est encore, on le peaufine et sera publié d'ici quelques mois, je pense. En tout cas, il y a une suite.
Marie-Noëlle Garrigou, qu'est-ce qui a aidé votre mère à tenir dans les camps? C'est la foi chrétienne? C'est l'icône?
Ah mais c'est l'icône. En fait, quand elle a retrouvé ce moine a continué de lui transmettre toute la beauté de l'icône par la parole. Hein,
mais dans le camp?
Dans le camp, en parlant de telle ou telle couleur, ou du coquelicot qui va être rouge, qui va signifier justement le divin, de telle ou telle tonalité. Et elle, enfant, comme une éponge, elle a tout capté. Ça a été vraiment le fil conducteur de sa vie. Dès petite, elle s'est hydratée à l'icône.
En 1947, elle s'exile en France, donc après la guerre.
Oui.
Avec sa famille?
Alors, ben, il n'y avait que sa mère, en fait, hein, puisque quand elles ont été...
Elle a survécu, sa mère aussi.
Sa mère, voilà. Elles se sont trouvées toutes les deux en camp, puisqu'en fait, elles avaient été prises dans une rafle. En fait, paraît-il qu'un officier allemand avait fait des avances à ma grand-mère qu'elle avait refusées. Et du coup, elles ont été déportées toutes les deux, embarquées. Et n'ont jamais pu retourner auprès de la famille qui se trouvait dans le village.
Et donc, elles partent en France.
Donc, elles arrivent en France. Quand elle est arrivée en France, elle a été par la suite très, très interpellée par la beauté des chapelles romanes. Entre tout ce qu'elle avait reçu, l'iconographie, et tout ce qu'elle découvrait, a été, on va dire, une explosion de joie intense intérieurement, parce que ça faisait écho. Et c'est notamment dans une petite chapelle romane auprès de fresques que mes parents se sont rencontrés, justement, tous les deux, devant ce lien et ce liant de l'art iconographique.
Votre père qui n'était pas orthodoxe?
Qui n'était pas orthodoxe, non, du tout.
Et alors, d'où venait-il, lui?
Lui, de région parisienne, ayant fait des études d'ingénieur, mais... faisant aussi beaucoup de guitare, chanter. Enfin, elle était aussi une chanteur dans des cabarets. Enfin, quand ils avaient une vingtaine d'années, hein, c'était et donc de tradition catholique de naissance, on pourrait dire. Ses parents n'étant pas spécifiquement pratiquants. Et puis lui, par la suite, disons qu'il n'avait pas forcément un rattachement à l'Église spécifiquement, mais interpellé par l'art. En fait, c'est l'art, et notamment les fresques romanes qui l'ont, et cette densité intérieure que l'on trouve dans les petites chapelles romanes, C'est ce qui l'a ouvert, en tout cas, ou l'a amené à un chemin de foi, et notamment après avec la rencontre de ma mère, où voilà, là, ça a été une voie royale à la dimension spirituelle qui s'ouvrait à lui.
Et donc, il a recommencé à vivre intensément, ou peut-être commencer même, une vie de foi.
Commencer, je pense, parce qu'avant, il suivait simplement ses parents. Et là, oui, de par lui-même, et de par choix, et puis par amour, Dieu parlant chacun de nous à des moments bien précis. Et là, c'est vrai qu'avec ma mère, quand ils se sont rencontrés, il y a eu ce plan spirituel au niveau de l'icône qui a fait partie intégrante de leur vie.
Et il est devenu orthodoxe ou pas ?
Oui, tout à fait, tout à fait.
Avant de se marier ou après ?
Après. Et puis par la suite, ils ont rencontré tous les deux dans une église romane, justement, un évêque orthodoxe qui faisait des fresques avec cette inspiration en même temps de ce lien avec l'art roman, Monseigneur Jean Kowalewski. Et là, ça a été aussi un point de rencontre très très fort pour eux. En fait, il en est devenu leur père spirituel, ils l'ont suivi pendant de longues années. D'une part, il y avait ce lien et ce lien pour ma mère de retrouver aussi ses racines avec cet évêque russe, orthodoxe. Donc, mon père a suivi des études de théologie, tous les deux d'ailleurs, mais ma mère aussi. Et puis, par la suite, il est devenu diacre, puis prêtre, mais n'avait pas cette intention-là au départ. C'est l'évêque qui lui a dit, maintenant, tu es diacre. Alors, il a dit, d'accord pour diacre, mais j'attends au moins 7 ans. Et reculé à chaque fois.
7 ans, le chiffre parfait.
Voilà. Et donc, 7 ans après, l'évêque n'avait pas oublié, il lui a demandé... Voilà, il était mûr pour la prêtrise et être au service, en fait. Hein, la vie spirituelle, c'est être au service. Donc, ce n'est pas de son propre choix, on va dire, personnel, mais c'est l'évêque qui a réveillé en lui. Et ça lui allait parfaitement. Enfin, il est prêtre, un merveilleux prêtre avec beaucoup d'attention, d'amour. Et ça fait partie de lui.
Marie-Noëlle Garrigou, vos parents vont créer en 1965, en région parisienne, un atelier d'iconographie, l'atelier Saint-Jean d'Amasène. Donc, ils se décident tous les deux à transmettre l'art de l'icône ?
Eh bien, disons que ce n'est pas non plus leur propre volonté, c'est l'évêque qui leur a demandé, qui a demandé à ma mère, de faire fructifier le talent qu'elle avait reçu. De ne pas l'enfouir, mais de multiplier et de transmettre. Et donc, mon père, qui s'était aussi initié à l'iconographie, donc ils travaillaient tous deux ensemble, et l'évêque leur a demandé de transmettre et d'ouvrir un atelier. Donc, c'est comme ça que le chemin s'est mis en route naturellement. Voilà, les cours ont commencé en région parisienne, tout d'abord, et puis progressivement. En fait, ils souhaitaient ensuite partir de Paris pour trouver un écrin de verdure où pouvoir justement transmettre l'iconographie entourée de la beauté, de cette nature qui nous entoure encore aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on a ce cadeau d'être là.
Dans le Vercors.
Dans le Vercors. Et pareillement, ils sont arrivés ici providentiellement, puisque tous les deux très attentionnés et très interpellés par saint Antoine le Grand, qu'ils vénèrent particulièrement, et t'es prêt à quitter la région parisienne pour partir en Égypte sur les traces de saint Antoine le Grand. Et quand ils avaient donc ce désir, dans ce même temps, l'évêque leur avait dit, écoutez, en Drôme, il y a un tout petit lieu qui a été donné à l'église. Il a demandé à mon père d'aller voir un peu en éclaireur cette petite maisonnette, qu'est-ce qui pourrait y être mis en place. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés dans le Vercors, au fond d'une combe qui s'appelle Combe Laval, vers Saint-Laurent-en-Royans. Donc non loin d'ici, et on se trouvait de région parisienne d'un seul coup au fond d'une vallée, et il n'y avait que quelques jours qu'on était arrivés, ma mère ouvre un livre sur la région pour connaître, parce que vraiment, elle n'avait jamais connu ce coin-là. Première page qu'elle ouvre, toute la vie de Saint-Antoine le Grand, avec le village de Saint-Antoine-l'Abbaye, qui se trouvait à 15 km de là où nous sommes, où se trouvent les reliques de Saint-Antoine le Grand qui ont été ramenées par un prince du Dauphiné.
Donc ça n'était pas la peine d'aller en Égypte.
Exactement. C'était un clin d'œil du ciel. Il n'était pas nécessaire de partir en Égypte. Saint-Antoine se trouvait à 15 km du lieu où il venait juste d'être parachuté. Donc premier clin d'œil. Enfin, il y en a eu dans nos vies, quand on prend du recul, il y en a plein, une multitude. Et à partir de là, ils ont commencé donc à retaper les lieux. Mais c'est vrai que le lieu était, on va dire, proprement géographiquement, une certaine austérité, mais propre à la vie monastique, de par le fait d'être tout au fond d'une combe entourée de falaises. Ils cherchaient un lieu qui soit, on va dire, plus ouvert, avec une vue qui puisse aller au lointain, plus lumineux. Et puis, dans ce même mouvement, deux moines orthodoxes cherchaient un lieu pour s'implanter, pour fonder un monastère. Donc c'était Père Placide et Père Séraphin. Et qui, quand nous on est partis de ce lieu, eux sont venus s'installer pour fonder le monastère Saint-Antoine-le-Grand.
Qui existe toujours.
Et nous avons trouvé donc le lieu où nous sommes aujourd'hui, qui s'appelle la Maison des Pauvres, qui appartenait aux Chartreux, en fait, à quelques kilomètres d'ici, à 3 kilomètres, se trouvait une très grande chartreuse du Val-Sainte-Marie, aussi grande que la Grande Chartreuse. Et donc, voilà, cette maison, on l'a trouvée pour Pâques. Alors, c'était une maison en ruine, hein, des prairies à vaches, c'était très, très précaire, mais ça a été le lieu d'installation qui a été trouvé donc pour Pâques, dans lequel se trouve gravé dans une des pierres un papillon, une chrysalide, en fait, avec une croix à l'intérieur, et qui est un symbole très ancien de la résurrection, justement de la transformation de la chrysalide en papillon.
Marie-Noëlle Garrigou, vos parents s'installent dans le Vercors, donc dans les années 60. Vous allez vivre toute votre enfance ici, mais pourtant vous êtes née à Paris en 1967.
Oui.
Dans des circonstances un peu difficiles, vous dites que c'est une naissance miraculeuse.
Oui. Oui, mais en fait, la vie n'est faite que de miracles. Le jour de ma naissance, je vais naître courant janvier. Et puis voilà que j'arrive, en fait, le 24 au soir.
24 décembre.
Le 24 décembre, la nuit de Noël. Et puis, en fait, la naissance s'est très mal passée parce que ça devait être une césarienne et le médecin ne souhaitait pas. Enfin, pour X ou Y facteur, ma mère a fait une crise d'éclampsie. Et du coup, on a dit à mon père, écoutez, on va essayer de sauver votre femme, mais votre fille, n'y comptez pas. C'était impossible. Et là, mon père est parti dans l'église de leur lieu pour en parler à l'évêque, enfin pour donner les intentions de prière. Et donc, pendant la nuit de Noël, tout le monde a intensément prié pour nous, pour ma mère et moi. Et puis, progressivement, miraculeusement, les choses s'en sont... se sont bien rétablis, mais on me l'avait dit à mon père, vous savez, si votre fille s'en sort, ça sera sans doute avec de gros handicaps. Et mais je n'ai jamais eu aucun handicap depuis. Et l'évêque, après Noël, est venu directement à l'hôpital et j'ai été baptisée tout de suite. Et puis, progressivement, Dieu a fait en sorte que la vie est plus forte que tout. Voilà, c'est une grâce, c'est vraiment une grâce au quotidien.
Et quels souvenirs vous gardez de votre enfance, puisque vos parents étaient très impliqués dans l'Église orthodoxe? Il y avait l'icône qui vraiment prenait une place prépondérante.
Oui, les souvenirs, c'est la liturgie, les célébrations. Quand on rentre dans une église, tous les sens doivent être en éveil, par l'odorat avec l'encens, par la vue avec les icônes et les fresques, par l'ouïe avec les chants liturgiques. Le corps participe pleinement, on va, on vient. Enfin, je ne sais pas si vous avez pu assister à des célébrations orthodoxes, mais c'est vrai qu'il y a un grand mouvement.
Et l'enfant que vous étiez le sentait totalement. Vous y étiez,
oui,
baigné complètement.
Mais quand on est enfant, on est vraiment... tous nos sens captent tout. Et du coup, toute la catéchèse se fait ainsi, par les sens. Et l'enfant, dans l'église, est vraiment, il a une place royale. Il est souvent devant, même assis avec ses jouets. Donc l'enfant joue tranquillement lors de la liturgie, assiste à l'office, et il a vraiment pleinement sa place. Et c'est vrai qu'aussi, l'enfant communie tout de suite. Quand on est baptisé, on reçoit aussi tous les sacrements.
Oui, c'est la spécificité de l'orthodoxie. Hein.
Tout à fait.
Le bébé baptisé communie.
Communie, voilà, c'est le premier à communier dans la paroisse une fois qu'il est baptisé. Et du coup, tu es partie intégrante, naturellement, spirituellement, corporellement et par le corps du Christ au corps de l'Église. Enfin, ça se vit vraiment physiquement. Donc, c'est une théologie pleinement vivante parce qu'elle se vit dans nos cellules, je dirais.
Alors ça, c'était pour l'Église, mais la petite Marie-Noël, dans la vie de tous les jours, à l'école, avec ses copains, Dieu avait une place dans votre vie?
J'ai toujours été un petit peu dans l'émerveillement et ça continue de plus belle encore aujourd'hui. Et justement, je crois que c'est un élément fort de dialogue avec Dieu à travers cet émerveillement qu'on a naturellement quand on est petit. Alors petite, un lieu où j'aimais particulièrement aller, c'était dans les cimetières. Justement, quand on parle du monde visible et du monde invisible, je passais de longs moments, quand on y allait avec mes parents, naturellement, et il y avait quelques beaux cimetières, j'ai des souvenirs de beaux cimetières où il y avait beaucoup de végétation, notamment. Et il y avait aussi cette période-là, enfin, quand on était petit, c'est revenu maintenant, on voyait souvent les visages des personnes, des petits médaillons,
des défunts.
Et souvent, je prenais du temps à discuter avec les défunts et à imaginer leur histoire. Et j'ai toujours trouvé que les cimetières étaient beaucoup trop tristes. Pour moi, j'avais plutôt le sentiment que c'était des berceaux. Et c'est vrai que les anciens cimetières, parfois, autour de la tombe, il y avait un petit peu comme une sorte de dentelle de fer forgé, parfois, on retrouve dans certains cimetières, et ça fait penser un petit peu au berceau ancien aussi.
Au lit d'enfant, parfois.
Au lit d'enfant, voilà, tout à fait. Et petite, ça me marquait beaucoup, parce que j'étais toujours interpellée, mais d'une manière joyeuse, c'était jamais triste, voilà, d'avoir ce dialogue avec ce monde invisible.
Grand témoin, Béatrice Soltner.
L'icône est ma langue maternelle, c'est ce que vous aimez dire, Marie-Noëlle Garrigou. C'est très fort, ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots?
Quand on est petit, on n'est pas plus haut que la table, en général. Enfin, il y a forcément un âge où on n'est pas plus haut que la table. Et donc, tout ce qui est sur la table, on l'aperçoit, on le voit. Et j'ai des souvenirs du pinceau, des pigments, et de voir ma mère peindre, et de regarder. On apprend beaucoup, beaucoup en regardant.
Oui, comme un enfant qui regarderait tricoter sa mère.
Voilà, tout à fait.
Vous, c'était l'icône.
Je regardais ma mère peindre des icônes, mais sachant aussi la représentation que pouvait être l'icône, puisque c'est un objet sacré, un objet liturgique, et on pose un regard sur l'icône, même quand on la regarde et qu'on est petit, avec précaution, comme si c'était quelqu'un qui est vraiment là et qui apparaît progressivement à nos yeux.
Parce qu'il faut justement rappeler ce qu'est l'icône. Ça n'est pas une simple image comme une affiche. Qu'est-ce que vous diriez, justement, comment vous expliqueriez à des enfants très jeunes ce qu'est l'icône?
L'icône, c'est une fenêtre sur le monde invisible. C'est une fenêtre à travers laquelle le saint se reflète. On dit aussi que c'est un miroir à travers lequel le saint se reflète. Tout le travail de l'icône et tous les canons de l'icône, en fait, c'est comme on parle d'écriture, d'écrire une icône qui est mise en couleur. En fait, l'icône, c'est la théologie en couleur. Donc, tout comme si on va à une célébration liturgique et qu'il y a le prêtre qui va célébrer, naturellement, je dirais, on a une attention, une prestance, et puis un recueillement, une intériorité, quel que soit l'âge que l'on a, on perçoit, de toute manière. Pareillement, quand on est devant l'icône et que même enfant, on voit peindre une icône, on a ce même regard, parce que on se rend compte qu'il y a une révélation, et l'icône est une révélation de la présence. Donc, c'est comme un texte qui s'écrit, sans faute d'orthographe théologique, qui va, on va dire, permettre un dialogue avec Dieu aussi. L'icône est comme aussi une médiation. On a un dialogue direct, naturellement, avec Dieu. Mais l'icône, et à travers tous les saints, ou le Christ lui-même représenté en icône, permet d'avoir à ce que la vue participe pleinement. Et les canons de l'icône permettent, on va dire, de rentrer dans un mystère théologique que l'on touche au bout du pinceau, au bout des doigts.
Marie-Noëlle Garrigou, enfance baignée dans l'iconographie avec votre mère Ludmila, dans la foi orthodoxe avec votre père Père Nicolas. Et puis, vous allez grandir. Vous avez fait des études aux Beaux-Arts de Valence.
Tout à fait.
Vous vouliez faire quoi dans la vie?
Alors moi, j'ai toujours gardé ce fil conducteur de la foi.
Il n'y a pas eu de crise de foi à l'adolescence?
Non, pas une crise de foi en tant que telle. Mais par contre, j'étais plutôt punk. J'ai eu ma période, on va dire, d'expression dans la manière vestimentaire ou avec une iroquoise, des badges partout, un accoutrement.
D'adolescente,
mais qui a duré quand même quelques années. Mais ça ne m'empêchait pas du tout d'avoir cette dimension spirituelle. Alors, quand j'étais voilà, un petit peu punkette et tout ça. C'était vers la troisième, donc 15, 16 ans. Puis après, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'étais toujours un petit peu dans cette mouvance-là. Mais toujours avec le lien avec l'icône. Et j'avais commencé à seconder l'enseignement dans l'icône, tout en ayant mon iroquoise.
Mais vous avez voulu devenir artiste dans d'autres sphères
Bah, disons que l'école des Beaux-Arts permettait d'avoir une ouverture personnelle sur le monde de l'art et voir un petit peu, découvrir. C'est toujours important de faire son propre chemin et sa propre découverte. On a beau nous donner des explications, c'est dans le vécu que les choses se passent réellement.
Je suppose qu'aux Beaux-Arts, c'est l'art contemporain, les années 80.
Alors, c'était un monde complètement différent du mien, c'est-à-dire de celui de l'icône, mais ça a été vraiment d'une très très grande richesse. Alors, en fait, c'est les Beaux-Arts m'ont ramené vraiment à l'icône. Artistiquement, en effet, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être très intéressantes au niveau d'un chemin spirituel, enfin, pas spirituel, mais personnel, que faisaient beaucoup de personnes. Mais il y avait un tel sentiment qu'il fallait trouver le truc en soi, le machin, le bidule, l'explosion de une certaine égocentrisme, on va dire, qui était un peu exacerbé, que ça me mettait un petit peu en retrait. Et je me souviens qu'il y avait un exercice qu'on devait faire une fois aux Beaux-Arts. Il y avait plusieurs noms de personnages, plein de petits noms de personnages. On devait tirer au hasard un personnage, un objet et un lieu. Alors moi, je me suis donc dans les personnages, il y avait Napoléon, il y avait Toutankhamon, je ne sais plus, il y avait Jésus-Christ aussi. Je me suis dit, pourvu que je ne tire pas le Christ, parce que alors là, ça va être difficile. J'avais une petite appréhension. Quand vient mon tour pour tirer donc les trois éléments, parce qu'en fait, on peut tirer trois éléments, et après, il fallait faire une composition avec ces trois éléments. Je suis tombée sur Jésus-Christ, stylo et nuage. Je me suis dit, waouh, prenons le temps, réfléchissons, comment faire. Alors, il y en a qui me disaient, mais tu fais Jésus-Christ crucifié sur un stylo, enfin des choses, mais... C'était impossible pour moi et il fallait à tout prix que je puisse faire quelque chose qui soit juste et pas sous prétexte que j'étais ni aux Beaux-Arts ou autre ou avec ma dégaine de punkette de faire n'importe quoi. Et donc j'ai réfléchi, j'ai téléphoné à mon père, on réfléchissait ensemble et puis d'un seul coup, je me suis dit mais je vais faire une icône du Christ parce que tout devait se faire en papier découpé noir et blanc. Je me suis dit, je vais faire une icône du Christ en papier découpé noir et blanc. Et le Christ qui a comme une bulle, tu sais, comme dans les...
Bandes dessinées.
Comme dans les bandes dessinées, qui est donc ce nuage, où un stylo écrit une phrase de l'Évangile. Et j'ai pu m'en sortir comme ça. Voilà, c'est vraiment une parenthèse. Mais comme c'est un lieu qui ne porte pas forcément la dimension spirituelle, il fallait à chaque fois que je trouve des alternatives pour que tout soit en cohérence avec qui j'étais intérieurement aussi. Et une autre chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup interpellée quand j'étais aux Beaux-Arts, c'est non pas le lieu lui-même, mais c'est le chemin entre mon petit logement que j'avais et les Beaux-Arts. Et en fait, j'ai fait beaucoup de rencontres merveilleuses avec les clochards qui se trouvaient entre mon logement et les Beaux-Arts. Et ça a été d'une grande profondeur, des rencontres extraordinaires. Et je passais mon temps à récupérer même de la nourriture au Crous, là, au resto universitaire, à récupérer les restes et puis apporter aux uns et aux autres et prendre un temps d'échange vraiment avec chacun. Et j'ai rencontré des personnes merveilleuses. Et je me souviens d'une fois où j'étais avec une copine à moi qui avait sa flûte traversière avec elle, parce qu'elle faisait aussi un peu de flûte traversière. Et puis en discutant avec l'autre personne démunie, en fait, quand il nous a raconté un petit peu sa vie, il était musicien, il était avant dans un grand orchestre, et puis ensuite, il y a eu une séparation, des difficultés familiales. Et là, j'ai proposé à mon ami qu'elle lui prête sa flûte traversière, et c'était extraordinaire. Il a joué, d'une manière tellement extraordinaire et merveilleuse. Toutes ces rencontres avec toutes ces personnes ont été des moments très forts dans ma vie, parce que ça a permis de rencontrer l'autre tel qu'il est. Et du coup, tous mes copains de Beaux-Arts me ramenaient des couvertures, des pommes, différentes choses que je puisse distribuer aux uns et aux autres.
Après les Beaux-Arts de Valence, Marie-Noëlle Garrigou, vous allez partir en Italie, à Ravenne,
oui,
pour apprendre l'art de la mosaïque. Vous aviez baigné dans l'icône depuis l'enfance et là, vous allez choisir la mosaïque. Pour quelle raison ?
bien, quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais toujours été attirée par la pierre, notamment par l'essence et la pierre. Et je pense que c'est aussi ma mère qui a dû me souffler une fois au creux de l'oreille. Peut-être que la mosaïque, ça pourrait t'interpeller. Je me souviens plus exactement du point de départ. Je me souviens que je voulais un petit peu travailler avec des pierres, utiliser et faire, pourquoi pas, de la mosaïque. Alors au Beaux-Arts, on m'a dit, mais écoutez, si vous voulez utiliser les graviers du...
de la cour.
Voilà, les graviers de la cour. Non, c'était pas sous cet angle-là que je souhaitais le faire. Et puis, je me suis renseignée, et en Italie, plusieurs écoles, il y a quelques écoles, et notamment à Ravenne.
Au lieu de la mosaïque.
Exactement. Et donc, c'est là-bas que je suis allée apprendre la mosaïque. Mais ce qui était assez... ce qui m'interpellait, c'est que je suis allée dans un milieu qui était toujours un peu comme le milieu Beaux-Arts, parce qu'on apprenait la mosaïque, alors différentes techniques, et puis après, c'est plus pour la mosaïque contemporaine ou autre. Je me suis dit, je vais prendre... ou en tout cas, enfin apprendre, non pas prendre, mais apprendre ce qui est à apprendre au niveau de la technicité de la mosaïque, mais pouvoir le retraduire aussi dans la manière telle que je l'ai appris au niveau de l'icône. Donc après mes études, l'important pour moi était de travailler la mosaïque dans le même esprit que l'icône.
Aujourd'hui, Marie-Noëlle Garrigou a 50 ans, le temps a passé. Et justement, la mosaïque fait complètement partie de votre vie puisque vous avez créé un atelier où vous enseignez cet art-là.
Tout à fait. L'atelier mosaïciel, justement, j'ai trouvé ce nom qui liait la mosaïque en lien avec la terre, en fait, les éléments et le ciel. Il y a quelques années, il était important de pouvoir ancrer la mosaïque dans une amplitude, on va dire, encore un peu plus grande, pour toute personne, et qui ne soit pas simplement ciblée au niveau de l'iconographie, proprement dit. Parce que l'icône, c'est vraiment naturellement dans une dimension spirituelle, donc on ne peut pas dissocier l'icône d'une démarche intérieure.
Oui, ce que vous avez fait pendant des années, je ne l'ai pas dit, mais avec vos parents.
Tout à fait. Depuis l'âge de 14 ans, j'avais commencé à seconder l'enseignement auprès de ma mère, donc J'ai depuis 14 ans, enfin, ça fait vraiment une grande partie de moi, l'enseignement et la transmission de l'icône.
Et alors avec la mosaïque, là, il y a autre chose.
Alors avec la mosaïque, il y a eu, d'une part, après, on va dire, on est passé de l'icône, que je continue toujours d'enseigner. Après, avec la mosaïque, dans toujours sa dimension de l'art sacré comme celle de l'icône. Et puis, depuis quelques années, justement, un mosaïciel, pour ouvrir encore davantage toute personne venant à la mosaïque, mais pas simplement... que pour faire une icône en mosaïque, mais toucher à la beauté et à notre essence même de la beauté de la création. Mosaïciel, en fait, lors des stages que l'on propose, on va cueillir des pierres sur site. On emmène les personnes sur les hauts plateaux du Vercors ou dans les rivières ou les cascades. Le but, c'est de vraiment faire participer nos sens et être dans l'émerveillement. Les pierres ont toujours, je trouvais, beaucoup d'humilité, parce qu'on marche dessus, on les regarde juste pour ne pas trébucher, alors que souvent, donc elles décèlent des trésors.
Et donc vous emmenez les participants regarder ces pierres et parfois les prendre.
Tout à fait, on va cueillir. On va cueillir les pierres, justement j'aime bien ce terme donc, de cueillir, puisqu'il y a une attention à le fait de cueillir, on ne ramasse pas. Quand on cueille une fleur, on fait attention, il y a une délicatesse dans le geste. Pour la pierre, ce sera la même chose. Donc on va s'émerveiller, vraiment, j'irai retrouver son âme d'enfant aussi. Et à partir de là, on va réaliser en partie la mosaïque avec les pierres que l'on a cueillies, que ce soit donc sur les plateaux, mais dans les rivières et les cascades. Le premier jour là, de la session...
Oui, il y a des sessions régulières que vous organisez.
Tout à fait. Et donc c'est vrai que aussi d'aller dans les rivières, c'est important. D'une part, les pierres vont être tout autres, les couleurs vont être tout autres, les densités de pierres vont être tout autres. Et puis de mettre les pieds dans l'eau, de se baigner pleinement dans la rivière ou la cascade, je dirais c'est presque renouveler son baptême, où on se sent vraiment hydraté totalement et faire corps avec les éléments. Parce qu'on est tellement déconnecté, je pense de plus en plus à notre époque, hein, où c'est le cerveau qui prend tout en charge et puis les sens... on les met complètement de côté, on se déconnecte totalement de la beauté de cette nature. C'est la louange au créateur aussi. Hein. Donc quand on s'émerveille, ça permet de vraiment se reconnecter. Donc ces stages sont pour toute personne, croyante ou non, justement. L'important, c'est de retrouver la beauté intérieure qui est en nous à travers la beauté qui nous entoure et de faire une réalisation qui va être une composition avec la mosaïque qui va être figurative ou non figurative. On est à chaque fois dans cette contemplation qui va être proche de celle de l'icône, mais avec une diversité, on va dire, plus large. Mais toujours, naturellement, ça en devient un cheminement intérieur.
Vous nous avez déjà dit que l'émerveillement était une valeur essentielle pour l'enfant, mais aussi pour vous-même. Dans cet art de la mosaïque, il y a une source d'émerveillement.
Ah mais constamment, au quotidien.
Qu'est-ce qui émerveille dans le fait de casser des pierres et puis de les assembler pour faire une composition?
Alors, le premier émerveillement, ça va être déjà la cueillette. D'aller sur des lieux, cueillir des pierres. Et notamment, je propose aussi aux personnes qui ont en général des pierres chez elles, tout le monde, à mon avis, environ 9 personnes sur 10, ont chez elles un petit coin avec des pierres ramenées
d'ici ou là, pays.
De différents lieux qui ont eu un écho, qui ont une valeur par rapport à notre propre histoire. Et chacun ramène en général des pierres. Et quand j'en parle aux personnes, elles me disent « Ah mais oui, en effet !» Puis il y en a même qui m'en sortent de leur poche directement. Et donc, je propose aussi aux personnes de rapporter aussi des pierres qui ont déjà font partie de leur histoire. Et ainsi, on peut les remettre en œuvre, on va dire, en les taillant ou non. Je parle plutôt d'ouvrir une pierre que de la casser.
Ouvrir.
Ouvrir, voilà.
Pourquoi ?
Ouvrir permet à la découverte et à l'émerveillement. Casser, c'est un terme plus rude. Voilà, il y a une violence dans le terme de casser. Tandis qu'ouvrir, c'est la découverte. Et le nombre de fois où une pierre, quand on l'ouvre, même si c'est avec la marteline, ça a un bruit, c'est un choc.
Ouais, c'est le petit marteau que vous utilisez hein, pour casser la pierre, la marteline.
Voilà, tout à fait. Donc, il y a naturellement un choc pour ouvrir. Mais l'ouvrir permet l'émerveillement et la découverte. Et le nombre de fois où on trouve justement... Quand on prend une pierre et qu'à l'extérieur, elle va paraître une sorte, elle peut avoir une couleur un peu monotone, peut-être, mais qu'est-ce que ça veut dire, une couleur grise? Ça pas forcément, pas parce que c'est gris que c'est pas beau. Il y a des diversités de nuances merveilleuses. Et tac, à l'intérieur, quand tu l'ouvres, tu vas trouver encore d'autres nuances, d'autres couleurs. Ce qui est magnifique aussi, c'est que ça nous remet aussi à notre place. D'une part, quand on va cueillir les pierres, on se sent tout petit devant cette immensité des roches. Quand on est allé il y a quelques jours dans les cascades et les rivières, ben là, et quand on regarde les falaises en haut, ben on se sent vraiment en miniature devant ces falaises imposantes au-dessus de nous, de la cascade. Quand au contraire on est dans les hauts plateaux, mais on se sent aussi minuscule devant ces steppes lointaines à perte de vue. Donc c'est d'une part retrouver notre juste place, on va dire. Et puis quand on taille la pierre, pareillement, certaines pierres ne vont pas se laisser faire. Et heureusement, il faut aussi avoir la simplicité de ne pas forcément ouvrir une pierre, parce que si on a essayé et qu'elle ne veut pas, il faut la laisser tranquille. C'est pas notre force humaine qui doit justement casser à tout prix notre volonté de...
Donc ces pierres, elles vous donnent pratiquement en image, en parabole, en signe, des indications sur la manière dont nous vivons, dont nous percevons le monde.
Exactement. C'est un apprentissage au quotidien et de vivre le présent. Le présent, c'est tellement précieux. C'est tellement précieux parce qu'on est toujours à ressasser le passé, à se projeter dans ce qu'on va faire par la suite, ou même demain ou dans l'heure qui suit. Et on en oublie totalement de vivre le présent. Et donc, cette manière de œuvrer, permet d'une part de s'enraciner et de vivre pleinement et de goûter au présent qui en devient, mais d'une saveur inestimable. Et ce contraste entre l'extérieur et l'intérieur en est constant. Et c'est vrai que c'est constamment des paraboles, hein, comme on parlait tout à l'heure, entre l'extérieur d'une personne et la beauté intérieure qui est des fois cachée à double tour sous d'épaisses couches qu'on ne pourrait pas voir comme ça. Mais elle est toujours là. Mais il faut y avoir l'œil attentif pour la découvrir. Donc c'est un chemin de beauté, d'émerveillement et d'humilité.
Marie-Noëlle Garrigou, je rappelle que vous êtes mosaïste et que avec votre mari, vous êtes ici dans le Vercors pour transmettre l'art de la mosaïque à des personnes très différentes. Il y a notamment des personnes qui viennent parce qu'elles ont perdu un être cher et elles veulent réaliser une mosaïque pour la déposer sur la tombe du proche, des défunts.
Tout à fait.
Et vous aimez à dire que vous êtes témoin là de chemin, de passage.
Exactement.
À travers le deuil de la mort vers la vie.
Ce qui est magnifique avec ces matériaux, notamment la pierre, c'est qu'on est aussi dans une échelle d'éternité. Ce que j'apprécie dans l'icône, mais encore davantage, je le ressens avec la mosaïque. Et quand on voit les mosaïques de Ravenne ou les mosaïques antiques, elles traversent le temps. Il y a cette échelle du temps qui nous dépasse totalement. Et à travers la possibilité de réalisation de... C'est pas simplement une décoration pour une stèle, mais c'est vraiment la réalisation pour certains complètement d'une stèle, où on fait même un projet paysager ensemble, on met tout en œuvre. On a réalisé, il y a quelques temps, peu de temps, avec Madeleine. Madeleine avait perdu son fils il y a 7 ans, qui avait 19 ans, et rien de ce qui lui était proposé correspondait à son attente. Et puis, par un ange intermédiaire, nos chemins se sont croisés, on s'est rencontrés. Et après, elle s'est dit, pourquoi pas réaliser quelque chose, une mosaïque. Mais elle ne pensait même pas une seconde y participer. Et je lui ai proposé de participer et qu'on réfléchisse ensemble à la réalisation, qu'elle soit pleinement participante. Et là, alors on a fait un arbre en 3D, en volume, qui fait 2,10 m de haut. Un arbre de vie, en fait. Naturellement, c'est devenu un arbre de vie. Avec la plupart des pierres importantes de cet arbre sont des pierres que Antoine, son fils, avait lui-même cueillies lors de ses randonnées.
Qu'il avait gardé
chez lui dans sa chambre, il avait plein de pierres. Donc toutes ces pierres ont été mises en beauté dans cet arbre de vie. Tous ses amis, beaucoup de ses amis et proches de la famille, sa sœur, sont venus aussi participer et chacun a porté, quand on parle de porter sa pierre à l'édifice. Et cette réalisation est devenue un travail ensemble, une œuvre ensemble de beauté pour Antoine. Il y a une branche de l'arbre sur laquelle repose une colombe de la paix. Un autre où il y a un soleil tarte au citron, puisque Antoine était pâtissier et que la tarte au citron était sa spécialité. Et puis un dôme qui est vraiment le dôme de l'arbre, qui est, on va dire un petit peu, qui va signifier aussi le cosmos, des pierres de lave, parce que son père vient de Sicile. Un arbre un peu iconographique, que j'ai retrouvé un petit peu dans les mosaïques que l'on peut retrouver à Palerme. Enfin, il y a plein de clins d'œil, et cet arbre, il est unique, c'est celui d'Antoine. Et du coup, on a réfléchi aussi ensemble au projet paysager. Donc il y a tout un chemin en pierre au sol qui amène à cet arbre. Et cet arbre conduit à la cime et conduit à l'éternité. Et son lieu, son berceau d'éternité, Antoine, devient un point de rencontre où beaucoup de gens, même qui ne le connaissent pas, viennent prier. Et souvent, sa mère m'appelle ou m'envoie une photo de la stèle d'Antoine, de l'arbre d'Antoine, avec tel ou tel éclairage, et me confie combien de personnes viennent se recueillir. Et ça pour Madeleine, ça a été vraiment un cheminement d'accompagnement au deuil qui a ouvert, ça dilate, ça permet de dilater le cœur, et qu'on mette du baume, et ne pas s'arrêter à mettre ce baume de douceur dans cette douleur physique que l'on éprouve, notamment à la perte d'un enfant. Et là, actuellement, on accompagne plusieurs personnes, soit la suite d'un enfant ou d'un père ou d'une mère. On était même allé en Alsace récemment. Et enfants et petits-enfants, tout le monde participe à la réalisation. L'enfant de 4 ans à la grand-mère de 80 ans. Et c'est un projet de vie.
Marie-Noëlle Garrigou, vous nous avez expliqué que toute votre vie avait été placée sous le signe de l'icône, notamment la première partie de la vie. Alors maintenant, c'est la mosaïque. Après ce que vous venez de nous partager, quel lien vous faites entre cet apprentissage de l'icône et puis tout ce travail auprès des personnes endeuillées qui vont construire une mosaïque dans votre atelier?
C'est la rencontre, en fait. De toute façon, l'icône, c'est la rencontre entre le monde visible et invisible. L'accompagnement à la réalisation de la mise en beauté en lien avec le deuil, c'est ce même écho. C'est d'une part rendre visible toute l'histoire de nos vies dans la plus belle des mises en beauté, en mémoire éternelle du défunt et qui est à nos yeux invisible, mais c'est toujours ce lien entre le visible et l'invisible, le monde terrestre et le monde céleste qui se côtoient constamment. Et à travers cet accompagnement, c'est vraiment que tout départ, quelle que soit la douleur, hein, parce qu'on le vit, et c'est souvent en l'ayant vécu soi-même qu'on se rencontre. Hein. Je parle de ça parce que j'ai pu vivre aussi à l'intérieur de moi-même.
Oui, le départ de votre mère notamment.
Voilà, notamment le départ de ma mère. Donc quand on touche ça, ça permet même... ça permet de mieux comprendre aussi la douleur et la souffrance de l'autre. Et ce qui est merveilleux, moi, ça me touche mais d'une profondeur, c'est que justement, ce sont que des rencontres de cœur à cœur. Parce que quand qu'on vient pour œuvrer suite à la perte d'un être cher, la rencontre, elle est directe, elle est vraiment au plus profond de chacun. On ne peut pas se cacher derrière quoi que ce soit. Ça touche tellement l'intime que c'est des rencontres angéliques. À chaque fois, elles sont source de joie. Elles sont source de joie de par cette rencontre et de cette mise en route d'une œuvre après, d'une réalisation. Mais on sent, enfin en tout cas, moi j'ai l'impression de sentir dans mes cellules cette joie de la résurrection, cette joie pascale hein, qui est rendue visible par tous les moyens, que ce soit par l'accompagnement, par la réalisation, enfin on essaie simplement, en tout cas moi j'essaie d'être simplement témoin de ce que j'ai reçu, de pouvoir le transmettre avec qui je suis, tel que je suis, avec toute simplicité et sobriété, et de voir que ben, si ça peut apporter du baume et ce goût de la beauté de la résurrection, mais j'ai envie d'y mettre toute mon énergie.
C'est intéressant parce que vous disiez que vous aviez ce goût de la vie éternelle en allant... À l'office orthodoxe.
Tout à fait.
Et au fond, cette énergie-là, cet élan-là traverse l'église et maintenant vous la retrouvez dans l'atelier.
Oui.
Avec un nouveau départ pour vous dans cet atelier de mosaïque en continuité avec l'icône.
Oui.
Il y a quelque
oui.
chose qui se crée là.
Ah, bah tout à fait. Bah, je veux dire, les choses ne sont pas dissociées. C'est un tout. Hein. C'est vraiment un tout de pouvoir. Œuvrer dans cette dimension d'une part d'éternité et de visible et d'invisible et de beauté. Et à partir du moment où on peut proposer, parce que j'ai des personnes qui elles-mêmes viennent pour réaliser aussi leur propre stèle pour elles. Mais c'est super magnifiquement joyeux. Il n'y a rien d'austère, il n'y a rien de triste. Au contraire, c'est qu'ils ont envie que ce soit en lien avec qui ils sont. Et pas laisser quelqu'un d'autre le faire pour eux, mais que ce soit dans une réflexion vivante. Et qu'est-ce qu'on se sent vivant ? La vie prend encore en plus une densité et un sens d'autant plus profond.
On cache trop la mort, on la met trop à distance, selon vous, aujourd'hui ?
L'homme a naturellement cette sensation d'éternité en lui, puisqu'il y a cette parcelle divine qui fait qu'on se sent immortel. Hein. Mais l'homme, quand il reste, on va dire, d'un point de vue plutôt matériel ou autre, a tendance à occulter la mort pour donner l'impression qu'on sera toujours, enfin, il y aura toujours quelque chose qui fera en sorte que on va pouvoir vivre plus longtemps, ceci, cela, enfin, mais ça fait un peu artificiel, enfin, c'est bien souvent. Du coup, on a tendance à mettre la mort de côté. D'ailleurs, quand quelqu'un meurt, alors, c'est vrai qu'orthodoxement, on parle de naissance au ciel, et déjà, ça change tout. Naissance, c'est plus une mort, c'est une naissance au ciel, donc c'est joyeux, une naissance. Et il y a une tendance actuellement, souvent, quelqu'un décède, et puis le lendemain ou le surlendemain, il est déjà enterré. Hop, les choses vont très 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 vite, comme s'il fallait d'un seul coup passer à autre chose, on tourne la page et...
Et on se débarrasse du corps et...
Mais oui, alors que ce qui est magnifique, je sais que moi les offices des défunts, les paniqués des offices des défunts, mais ça fait partie des offices les plus beaux
dans l'orthodoxie.
Alors déjà, le défunt est dans son cercueil ouvert, au milieu de l'église. Et donc tu vas embrasser l'icône qui est sur lui, tu peux embrasser le défunt sur le front au même titre que les icônes. Enfin, je veux dire, Et bien souvent, mais tu as une paix sur le visage, un rayonnement. Et tu sens une plénitude. Mais c'est incroyable. Enfin, moi, ça m'a toujours beaucoup touchée. Voilà, tu sens cet endormissement dans l'éternité, mais avec une plénitude qui est visible. Et de voir, justement, le défunt dans cette plénitude, mais c'est un soulagement aussi intérieur. Parce que bien souvent, hop, on cache, on ferme le cercueil, on a à peine vu le défunt ou on ne veut pas le voir parce qu'on se fait une idée de la mort et de... morbide, quoi. Alors que quand tu vois le défunt, après ça peut différer pour toute histoire et toute circonstance, mais bien souvent, je sais que pour ma mère, par exemple, 3 jours, elle est restée dans la chapelle, dans notre chapelle. On a la grâce d'avoir une chapelle dans notre prairie.
Une chapelle tout en bois. Hein.
Alors, il y a 2 chapelles, une qui est toute en bois, et puis on a même 2 chapelles. À chaque bout de terrain qui se rajoute proche de la maison, on a souvent une chapelle qui pousse. Son cercueil ouvert, elle était comme une princesse rayonnante. Et tu sens vraiment ce passage, le passage de la chrysalide en papillon. Le corps est là et que progressivement l'âme va se détacher. Mais ce passage vraiment de la chrysalide, nous sommes plus qu'une chrysalide, mais c'est juste une poche. La beauté intérieure est toujours là et progressivement, justement, on prie après intensément pendant 40 jours, dit-on, pour que l'âme arrive dans les bras du Père et que ces 40 jours permettent à l'âme de s'élever, on va dire, davantage, et non pas de la retenir par notre douleur ou notre souffrance. Et souvent, les cercueils qui sont avec tous ces foufous blancs, mais c'est des couffins.
Marie-Noëlle Garrigou, ça vous rend heureuse, cette transmission de l'art de l'icône pendant de longues années, et puis aujourd'hui, vraiment principalement, la mosaïque. On n'a pas dit aussi que vous créez vous-même vos propres créations. Il y a eu l'église de Laval,
la cathédrale de Laval.
Il y a d'autres lieux.
Voilà, on fait appel aussi pour différentes églises, que ce soit au sol, à l'église de Saint-Nary-sur-Mer, où il y a le pavement autour du baptistère, la cathédrale de Laval, donc tout le tympan. Là récemment, pour une chapelle orthodoxe dans le Vercors, là, un Christ enseignant.
Et ça vous rend heureuse, ça, de participer?
Oui, mais là, c'est pareil, c'est la mise en beauté, notamment quand c'est des tympans d'église ou de cathédrale. Parfois, ils sont vides alors qu'ils devraient être le lieu, justement, de l'accueil pour rentrer dans le mystère qui est l'édifice, l'église, quel que soit l'édifice, l'église, chapelle ou cathédrale. Le tympan... Souvent, on a un Christ en gloire. Enfin, dans l'art roman, on avait bien souvent un Christ en gloire qui invite à rentrer dans le mystère. Et par exemple, pour la cathédrale de Laval, j'étais allée chercher des pierres issues de la carrière d'où provenaient les pierres de la cathédrale pour avoir aussi quelques tons qui soient en lien. C'est pas une déco que l'on pose, mais c'est vraiment cette mosaïque doit faire corps avec l'édifice. Et j'avais demandé également à ce que toutes les personnes qui le souhaitent, de la cathédrale, puisse apporter une pierre qui soit après taillée et insérée dans la mosaïque, que ce soit une œuvre ecclésiale, communautaire, liturgique, où tout le monde y participe d'une manière ou d'une autre. Et donc, un énorme panier de pierres, avec chacun avait marqué son prénom sur la pierre, a été béni lors d'une célébration par l'évêque à la cathédrale. Et puis, là, 2 personnes de la commission d'art sacré sont venus me l'apporter ici, dans le Vercors. Et j'avais demandé aussi les prénoms et les intentions de prière des personnes, des paroissiens de la cathédrale, pour que chacun fasse corps et soit réellement présent physiquement dans la réalisation. Et ça donne encore une autre dimension. Enfin, c'est la dimension liturgique, ecclésiale, et on est tous un seul même corps. Ce qui est beau, encore dans la mosaïque, c'est toutes ces facettes, la diversité des petites tesselles, chaque petit cube s'appelle une tesselle, et j'aime transmettre, en tout cas, pareillement, s'émerveiller de se dire que telle tesselle, elle se met en valeur, enfin grâce à celle d'à côté, toutes elles se mettent en valeur les unes par rapport aux autres. Voilà, tout est lié.
Un grand merci à vous, Marie-Noëlle Garrigou. Pour ceux et celles qui veulent mieux connaître justement votre mission et vos ateliers, notamment l'atelier de mosaïque, je donne votre site mosaïciel.com. Merci.
Merci à vous.